Ô Seigneur, Père céleste, mon papa, je te demande toute ton aide et je demande à Jésus-Christ, mon Sauveur et Seigneur, qui m'a sauvé et racheté, je demande toute l'aide que j'ai besoin maintenant. Que ma voix puisse fonctionner jusqu'à la fin. Et aide-moi par le Saint-Esprit. Dirige-moi, inspire-moi. Et que tout soit cohérent. Merci Seigneur pour ta bonté infinie. Je te suis reconnaissant tellement pour tout ce que tu fais pour moi. Oh, merci. Merci, mon Papa Céleste. Merci, Jésus-Christ, mon Sauveur et Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci à tout le ciel. Chers auditeurs et chères auditrices, il y a tellement de gens autour de moi qui ont des problèmes, pas seulement physiques, mais aussi psychiques. Ne croyez pas que, à plus de 90 ans maintenant, que j'ai pas aussi eu des périodes de déprime. Oh oui, j'ai pas honte de vous le dire, mais je n'ai jamais eu recours à aucun psychiatre ou psychologue. Jamais. Ça ne veut pas dire que ceux qui ont ces problèmes qu'ils n'ont pas le droit d'aller voir un médecin. J'ai pas dit ça. Essayons de voir ensemble un peu le parcours de ce que c'est aujourd'hui. Donc, pour se céder, nous ne voulons surtout pas nier les maladies mentales ou les désordres psychiques et psychologiques qui requièrent l'intervention, et je le répète, d'un médecin. Nous sommes conscients, je suis conscient, qu'on ne peut soulager certains problèmes sans une thérapie appropriée ou une médication. Qu'on pense par exemple aux problèmes causés par un déséquilibre hormonal, au cas de déficience mentale, aux enfants qui ont des troubles d'adaptation ou des difficultés d'apprentissage et à bien d'autres problèmes. Le secours médical, l'intervention d'un psychiatre ou d'un psychologue a évidemment sa place dans ces cas-là. Chers amis, notre époque est marquée par l'influence de la psychologie séculière dans l'Église. Contrairement à 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17, la Sainte Bible n'est plus suffisante pour servir de base à la relation d'aide. On a besoin maintenant de la psychothérapie. On ne compte plus sur le Saint-Esprit pour qu'il produise les changements nécessaires dans la vie des croyants. Les anciens ne sont plus compétents pour conseiller. Ils doivent envoyer les chrétiens à des psychothérapeutes. Et cela en dépit du fait que Dieu nous a donné dans sa sainte parole et par le Saint-Esprit tout ce qui nous est nécessaire à la vie et à la piété. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 3. Pendant des générations, les croyants ont apporté leurs problèmes au Seigneur, et cela dans la prière. Alléluia. Maintenant, ils doivent consulter un psychiatre ou un psychologue. Les jeunes hommes ne sont plus encouragés à prêcher la Sainte Parole. Le mot d'ordre est désormais « Pratiquez la relation d'aide psychologique et faites du yoga ». La relation d'aide professionnelle est devenue une vache sacrée. On n'ose pas la dénoncer sans qu'il se trouve inévitablement quelqu'un, disons, tout simplement pour la défendre. Qu'y a-t-il donc, chers amis, de si mauvais dans cette thérapie? Eh bien, laissez-moi vous énumérer, pourquoi pas, disons 11 points qui vont démontrer ce qui ne va pas. Premièrement, l'attention de la personne est dirigée sur elle-même et non pas sur Jésus-Christ. C'est là un défaut très grave. Il n'y a pas de victoire dans le « moi ». L'examen de soi, ce n'est pas un remède. Les bons marins ne jettent pas l'ancre à l'intérieur du navire. Nous avons donc besoin de quelqu'un plus grand que nous-mêmes, et ce quelqu'un, eh bien, c'est Jésus-Christ. Tôt ou tard, nous devons réaliser que nous occupons et que nous occupe du Seigneur, c'est là le chemin, le véritable et le seul chemin de la victoire dans la vie chrétienne. C'est Jésus. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Le dramaturge norvégien, Ibsen, j'ai parfois de la peine avec leur nom, eh bien ce Norvégien raconte le fait suivant à propos d'une visite que Peter Jent a faite dans un hôpital psychiatrique. Tous les gens semblaient normaux et personne ne paraissait être fou. Il parlait de façon tout à fait raisonnable de leur projet. Lorsque Peter mentionna ce fait à un médecin, eh bien celui-ci a répondu « Ils sont tout de même fous ». J'admets qu'il parle d'une façon sensée. Mais voyez-vous, tout est centré uniquement sur eux-mêmes. En fait, ils sont très très intelligents, mais ils sont obsédés par leur moi. C'est le moi. Le moi le matin, à midi, et même durant toute la nuit. Ici, on ne peut s'échapper du moi. On le trimballe partout avec soi même dans nos rêves. Ils disent, vous, si vous êtes un prêtre, eh bien votre devoir serait de prier pour moi. Oh oui, 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 on parle sensément, d'une façon sensée, mais voilà que il paraît qu'on est fou, sans l'ombre d'un doute. Deuxièmement, la psychologie moderne est uniquement basée sur la sagesse humaine et non pas sur celle de Dieu. Ça, c'est l'opinion des hommes plutôt que l'autorité de la sainte parole de Dieu. La diversité des opinions humaines est visible dans le fait qu'il y a plus de 250 systèmes de psychothérapie et plus de 10 000 techniques, y compris celles qui peuvent aider vos animaux domestiques. Car même des gens vont chez des psychiatres pour leurs animaux. Ils l'ont montré à la télévision tout récemment. Sans compter, entre parenthèses, je ne devrais pas le dire, il y a même des restaurants bio pour les chats et les chiens. Et ça coûte un saladier. Oui, c'est vrai. Or, cette tendance comporte au moins un élément dangereux. Car la raison humaine remplace la sainte parole de Dieu pour résoudre les problèmes émotionnels et spirituels. Les réponses rationnelles qui ne sont pas fondées sur des principes spirituels peuvent apporter un soulagement temporaire, mais à la longue, eh bien le résultat peut être décevant et même dommageable. Troisièmement, beaucoup de problèmes, probablement la plupart de ceux pour lesquels les gens ont besoin d'aide, sont causés par le péché, tels que les ménages brisés, des familles divisées, des conflits interpersonnels, trop de soucis, sans compter la drogue, l'alcool, on n'en parle même pas, ainsi que certaines formes de dépression. Pour tous ces problèmes, ce qu'il faut, ce n'est pas la voix d'un psychothérapeute, mais plutôt la puissance de la croix de Jésus-Christ. Le Sauveur seul peut dire que tes péchés sont pardonnés et maintenant va en paix. Quatrièmement, bien souvent, la cure d'âme moderne cherche à transférer la responsabilité sur autrui. Le péché est une maladie, tout simplement. Ou encore, le problème est causé par l'entourage de la personne. Les parents sont à blâmer pour la conduite inacceptable de leurs enfants. Comme conséquence, les gens sont soulagés de toute responsabilité personnelle. John MacArthur parle d'une femme qui se disait contrainte de vivre une vie immorale, et cela depuis des années. Le plus beau, elle faisait partie d'une église évangélique. Le conseiller lui suggéra que sa conduite était le résultat de blessures infligées par un père passif et une mère beaucoup trop autoritaire. La psychologie actuelle offre une raison de plus de se justifier. Hommes et femmes qui se sont examinés trouvent le moyen de s'émanciper en se débarrassant des noms affreux que les religions ont attachés au péché pour les rebaptiser par des noms dépouillés de toute idée de culpabilité. Ainsi, ils sont mal adaptés ou ils sont introvertis plutôt que vraiment tout simplement malhonnêtes et égoïstes. Un homme d'âge mûr, fatigué de son épouse, s'engage dans une relation avec une jeune femme de la moitié de son âge. Il se fait dire par un thérapeute qu'il souffre tout simplement d'un spasme de retour à l'adolescence, plutôt que d'être mis en face de la vérité qui dit « Tu ne commettras point d'adultère. » Cinquièmement, la psychothérapie travaille en complète contradiction avec le Saint-Esprit, en mettant l'accent sur l'importance d'avoir une bonne image de soi-même et surtout une saine estime de soi-même. Or, le Saint-Esprit cherche plutôt à convaincre les pécheurs de leur culpabilité et de les amener à la repentance. Il cherche à restaurer les croyants rétrogrades et à les conduire à confesser leurs péchés. Voyez-vous, toute forme d'estime de soi, de soi-même, qui n'est pas fondée sur le pardon des péchés et sur la position de l'homme en Jésus-Christ, est foncièrement une erreur. Sixièmement, il y a aussi, bien sûr, l'aspect financier de ce fameux problème. Ainsi, nous faisons actuellement face à ce phénomène, car des gens payent d'autres personnes simplement pour les écouter. C'est précisément ce que font les psychiatres, les psychologues et les conseillers professionnels. Or, ça, c'est un commerce qui se chiffre, paraît-il, à 1 milliard d'euros. En fait, cela ne veut pas dire que les conseillers renseignent ou qu'ils guident les gens dans la grande majorité des cas, car en réalité, tout ce qu'ils font, c'est de les écouter tout simplement. Ils sont donc payés pour faire ce que les gens d'une toute autre époque, qui était la mienne, faisaient absolument bénévolement. Lorsque une femme s'est plainte que 20 années de consultation ne lui avaient été d'aucun secours, un ami lui a posé la question « Avez-vous déjà demandé de l'aide à l'Église ?»« Oh non ! Tout ce que l'Église veut, c'est mon argent !» Alors, s'il vous plaît, Combien d'argent avez-vous payé à votre psychologue, chère madame ? Sur un salaire mensuel de 2400 euros, j'ai payé 60 euros par semaine pendant une période de 20 ans. 60 euros par semaine, cela fait 240 euros par mois, ce qui signifie un dixième de son revenu. Elle payait, en quelque sorte, la dîme à son conseiller, mais elle refusait de donner la dîme à l'Église. Et de plus, elle admettait ne pas aller mieux du tout. Une autre dame s'élevait contre ce qu'elle appelait les deux poids, deux mesures. Tout cela de son psychanalyste, car durant 6 ans, c'est pas mal, elle a visité son psychanalyste 5 fois par semaine, dit-elle, et je me suis privée de bien des choses pour avoir les moyens de le payer. Mais quand j'étais malade et que je manquais un rendez-vous, il avait une drôle de réaction. Il insistait pour dire que ma maladie n'était qu'une sorte de vengeance psychosomatique et que c'était mon subconscient qui résistait au traitement. Bien sûr, je devais toujours et toujours payer. D'un autre côté, lorsqu'il s'absentait pour plus d'un mois complet de vacances, au mois d'août, me laissant totalement en panne, totalement seul et en état de panique, avec des tas de problèmes non résolus, alors j'étais censé comprendre pourquoi ces vacances n'interrompaient pas le traitement. René May, l'un des plus importants porte-parole de la profession depuis ses débuts durant les années 1980, se plaint que la psychothérapie a succombé à la tentation de faire de l'argent et d'exploiter le monde. Il dit ceci: la psychothérapie est devenue une affaire où vous avez des clients et où vous faites de l'argent. Plusieurs praticiens soulignent que pour être efficace, le traitement doit comporter un sacrifice financier pour le patient. Ce dernier n'aurait aucun respect pour le traitement si c'était une trop bonne affaire. Il n'est donc pas surprenant que le monde plaisante à ce sujet. Oui, le névrosé bâtit des châteaux en Espagne, le psychopathe les habite et le psychothérapeute en perçoit les loyers. C'est pas mal. Septièmement, quelquefois des gens payent une petite fortune pour être examinés quand ils auraient plutôt besoin de consulter tout simplement un médecin généraliste. Après avoir suivi des séances de conseil pendant 2 ans, un écrivain se plaignait que sa vision était floue lorsqu'il voulait lire. Le thérapeute évoquait tout simplement la difficulté de concentration comme étant un syndrome typique chez les gens aux prises avec de fausses angoisses. Comme il trouvait difficile de faire suffisamment d'argent pour payer le psychologue, le patient se rendit chez un ophtalmologiste et ce dernier lui suggéra simplement qu'une paire de lunettes de lecture guérirait totalement ce fameux syndrome. Et c'est ce qui arriva. Ça donne quand même à réfléchir, non ? Huitièmement, des conseillers chrétiens prétendent sélectionner les meilleurs enseignements d'hommes non régénérés tels Freud, Maslow et Jung et les mélanger à ceux de la Sainte Bible. Voilà donc un mariage qu'on peut dire profane. Lors d'un congrès sur la relation d'aide chrétienne en 1998-1998, le révérend Adams disait « De toutes mes forces, je vous enjoins d'abandonner la tâche inutile à laquelle j'ai fait mention, celle d'essayer d'intégrer les idées païennes à la vérité biblique. Songez aux millions d'heures qui ont été perdues depuis plus d'une génération à cette tâche désespérée. Pourquoi n'y a-t-il pas de résultats perceptibles ? Oui, pourquoi ? Eh bien, je vais vous le dire. C'est parce que cela ne peut pas se faire. La relation d'aide essaye de changer les gens. Mais voyez-vous, changer les gens, ça, c'est uniquement l'affaire de Dieu. Neuvièmement, même dans la plupart des séances des conseillers chrétiens basés sur la psychologie, la prière n'est plus reconnue comme une technique valable. Au mieux, elle est plutôt presque tolérée, à peine. Et au pire, elle est même totalement négligée. Bien peu de conseillers ont pris suffisamment de temps pour prier avec leurs patients. Chers amis, sommes-nous sur le point de croire que la prière n'est que d'importance secondaire lorsqu'il s'agit de faire face aux problèmes de la vie? Nous, sommes-nous trompés durant toutes ces années en croyant que si l'on se conforme aux conditions de Dieu, il répondra à nos prières éventuellement? Dixièmement, dans beaucoup d'églises, l'enseignement n'est autre chose que de la psychologie recouverte d'une couche de vocabulaire biblique. Les gens demandent du pain et on leur donne une pierre. Et onzièmement, pour dire les choses carrément, la psychothérapie, elle n'a guère démontré, jamais démontré de succès évident. Et dans beaucoup de cas, elle a même été dommageable. C'est connu. Et durant les dernières années, certains auteurs chrétiens courageux ont sonné l'alarme concernant la relation d'aide psychologique. En français, nous avons des livres extraordinaires. Je vous donne « La séduction psychologique » de W. K. Kilpatrick aux éditions du Centre biblique européen, 1418, Waron, en Suisse. Ensuite, « La séduction de la chrétienté » de Dave Hunt et de T. A. McMahon aux éditions Paroles de vie en France. Les opposants ont écarté sous ces ouvrages, et cela d'un air hautain, où ils ont même accusé leurs auteurs de vouloir créer des divisions ou autres formes de malaise. Le docteur Tsatz, ça s'écrit S comme Suzanne, Z, A, S et de nouveau Z. Donc le docteur Tsatz, professeur de psychiatrie à l'Université de l'État de New York, a été depuis des années un porte-parole très critique. Il qualifie carrément la psychiatrie de pseudo-science, au même titre que l'astrologie et l'alchimie. Croyez-le ou pas, vous pouvez vous renseigner, surtout si vous avez Internet. Il appelle les maladies mentales un mythe en suggérant que c'est une étiquette commode pour camoufler et pour rendre plus agréable la pilule amère du conflit moral dans les relations humaines. Il soutient qu'aucune forme de comportement anormal n'est une maladie et que par conséquent, le traitement ne relève pas du tout du médecin. J'ai honte de vous dire que dans mon jeune âge, j'ai été possédé de démons. Évidemment, aujourd'hui, ce mot est obsolète et banni, car on ne veut pas du tout croire que les démons existent, ni que leur dieu, qui est le diable Lucifer, Satan, soi-disant il n'existe pas. Or, si vous possédez un Internet, vous pouvez écouter sur 3xW, donc www, Bible explique en un seul mot, .ch, toute une série d'études sur la démonologie et au moins 150 études sur l'importance de la prière. Chers amis, Silbergeld, voilà un autre nom. Je répète, Silbergeld. Il dit qu'il est généralement tout aussi utile pour le patient de parler avec une personne ordinaire qu'avec une personne professionnelle. Jeffrey Masson, il est diplômé du Toronto Psychanalyste Institute et il est membre de la International Psychoanalytic Association. Il a été directeur de projet dans le Sigmund Freud Archive. Dans la préface de son livre qui est intitulé « Against Therapy », il écrit « Ce livre qui explique pourquoi je crois que la psychothérapie sous toutes ses formes peut être mauvaise. Bien que je critique plusieurs psychothérapeutes et plusieurs thérapies, mon objectif premier est de démontrer que l'idée même de la psychothérapie est totalement fausse. Le docteur Hans Ige Eysenck, professeur de la psychologie à l'Université de London, a découvert qu'entre 70 et 77% des patients qui ont été névrosés guériront ou amélioreront considérablement leur état avec ou sans aucune aide de psychothérapie. C'est une question de rémission spontanée par la prière. Nous avons graduellement pris conscience du grand postulat de Freud selon lequel la responsabilité de tout notre comportement peut être attribuée à d'autres et le but de la vie n'est pas d'agir moralement, mais de nous libérer de tout sentiment de culpabilité, tout simplement. La prétention qui veut que la psychothérapie ait un taux élevé de réussite n'est pas du tout basée sur des faits. Dans l'étude de Cambridge Somerville, des jeunes délinquants ayant suivi des traitements psychologiques sont même devenus pires que les candidats du groupe de contrôle qui n'avaient reçu absolument aucun traitement. Il faut aussi noter que dans la psychothérapie, nous retrouvons l'effet psychosomatique ou le placebo. L'amélioration tant attendue, alimentée par les promesses d'un psychothérapeute qui affirme de pouvoir résoudre tous les problèmes, finit par faire croire aux patients qu'il y a des résultats positifs, même s'il n'y en a absolument pas. Que pouvons-nous conclure de tout cela, mes chers amis? Il n'y a qu'une seule conclusion possible. Et tandis que des praticiens séculiers admettent que les réussites spectaculaires et les guérisons sont pratiquement inexistantes, l'Église évangélique se mobilise de plus en plus autour de la psychothérapie plutôt que autour de la Sainte Bible, comme si la psychologie était un remède universel pour régler les problèmes de tension nerveuse, d'anxiété ou autre. Il est peut-être temps pour l'Église de faire un examen de conscience. Lorsque des gens religieux ont besoin d'aide et se tournent vers les psychologues et les psychiatres plutôt que vers l'Église, on devrait s'interroger très sérieusement. Quand la jeunesse chrétienne croit pouvoir accomplir davantage pour le monde en devenant psychologue ou psychiatre, que comme pasteur ou évangéliste. Peut-être qu'un second regard sur le Saint-Livre nous révélera une psychologie spirituelle qui apportera des réponses spirituelles aux besoins affectifs et mentaux du peuple de Dieu. Voyez-vous, il y a une place pour la relation d'aide, mais elle doit être biblique. Elle ne doit écarter ni le Saint-Livre, ni le Saint-Esprit, même pas la prière. Elle ne doit pas excuser le péché, jamais. Elle ne doit pas décharger les gens de leur responsabilité personnelle. Chers amis, la chrétienté est aujourd'hui envahie par ce qu'on appelle la psychologie. Elle est enseignée dans beaucoup de collèges bibliques et inspire les sermons dans plusieurs églises. Les gens qui ont des problèmes sont invités à consulter un psychologue pour obtenir des résultats professionnels. Or, l'Église, elle a reçu de son Sauveur l'ordre de proclamer l'Évangile aux pécheurs et de prêcher la Sainte Parole aux croyants. Est-ce que la prétendue psychologie chrétienne est vraiment une manière perfectionnée de communiquer la Sainte Parole de Dieu, ou est-ce un message différent? Est-ce que le fondement de la psychologie chrétienne est différent de celui de la psychologie séculière? Le but n'est pas de mettre en question les motifs de ceux qui prônent la psychologie ou les problèmes causés par un déséquilibre chimique. Notre objectif est de défendre la seule et unique vérité. Nous allons regarder donc quatre aspects où la psychologie chrétienne est semblable à la psychologie séculière, soit radicalement différente de l'évangile de Jésus-Christ qui est enseigné dans la Sainte Bible. La psychologie moderne considère une personne comme étant une victime. Les raisons données sont des problèmes de famille ou d'éducation, tels qu'un foyer brisé, une mauvaise éducation ou toutes sortes d'abus, voire même sexuels. La souffrance intérieure et la victime se manifestent par une conduite perturbée. La victime est portée à croire qu'elle a été blessée psychiquement à cause de la conduite des autres, donc la conduite d'autrui. Le raisonnement est le suivant: quelqu'un qui souffre fait toujours souffrir les autres. La solution est donc de donner à la personne qui est blessée, le sentiment de sa propre valeur et de lui faire comprendre que les autres sont la cause de toute sa souffrance. La psychologie enseigne que le manque d'estime de soi-même, peut être corrigé en comprenant la cause d'une conduite perturbée. L'Évangile ne nous considère pas comme des victimes, mais comme étant des pécheurs. L'Évangile ne parle pas principalement d'une souffrance intérieure, mais de la culpabilité causée par notre péché. Selon l'Évangile, le problème n'est pas simplement une conduite perturbée, mais c'est une désobéissance volontaire à Dieu. Le fameux auteur de cinéma de réputation mondiale, actuellement, tout le monde en parle, dans les journaux, à la télévision, et même le président français, ainsi que le président donc des États-Unis, eh bien, ils en parlent dans le monde entier, de cet homme célèbre qui a eu, je crois, 8 Oscars, si ce n'est pas plus. Et maintenant, il y a des dizaines, beaucoup plus, de femmes qui se plaignent d'avoir été violées, d'avoir été molestées, où il a simplement tombé son pantalon pour se masturber devant des femmes en leur promettant qu'ils pourront être des vedettes de cinéma. Ça, c'est un peu du donnant-donnant, à mon avis. C'est un avis personnel, évidemment. Mais cet homme va évidemment avoir des problèmes, comme en son temps, Dédesca a eu certains problèmes. Eh bien, voyez-vous, des gens comme ça, croyez-le ou pas, ils sont possédés par des démons. C'est authentique. Si vous avez écouté la série de la démonologie sur Internet, vous comprendrez qu'à la fin des temps que nous vivons, ce que nous voyons et que ce qu'ils nous font voir par la télévision et dans les journaux et dans les magazines, va se répéter 100 fois, 1000 fois. Ça va être terrible. Voyez-vous, l'Évangile ne nous considère pas, et je le répète, comme étant simplement des victimes, mais elle nous considère comme étant des pécheurs. Une victime peut accuser des autres pour sa conduite, pourquoi pas. Un pécheur devrait confesser son péché. La Bible considère tous les hommes comme des pécheurs coupables, c'est-à-dire que nous sommes responsables de nos actions et que nous sommes sans excuse selon Romains chapitre 1 verset 3. Ou plutôt, selon Romains chapitre 1 jusqu'au chapitre 3. Chers amis, nous avons tous l'ordre de nous repentir selon Actes chapitre 17 verset 30. La solution, elle n'est pas seulement subjective. La foi dans une meilleure compréhension de soi-même. Mais elle est surtout objective. C'est la foi dans le Sauveur des pécheurs. Le Sauveur des pécheurs qui est Jésus-Christ, notre Seigneur. Selon Romains, chapitre 3, verset 21, à 28. La philosophie dit que quelqu'un souffre d'alcoolisme au lieu de parler du péché d'ivrognerie, la débauche et l'adultère ne sont pas du tout considérés comme des péchés, mais simplement comme une trop grande liberté sexuelle. La colère et les qualifiés de conduite impulsive, et ainsi de suite. Tous ces différents péchés sont souvent regardés comme étant simplement des maladies. Or, une maladie, c'est quelque chose qu'on attrape ou qui nous est transmis sans qu'on l'ait voulu. Une maladie doit être traitée, il me semble, par un professionnel de la santé, comme un médecin. Chaque maladie exige donc un traitement approprié, évidemment. Mais la Sainte Bible enseigne que le péché comme l'ivrognerie, les déviations sexuelles, la débauche, l'homosexualité, même si vous croyez que c'est absolument normal, la colère, les querelles, le vol, les cambriolages, toute la haine qui se manifeste dans ce monde sont des œuvres de la chair. La chair est ce qui a été affecté et corrompu dans notre nature humaine. Elle est héritée de Adam, selon Romains chapitre 5, verset 12, et jusqu'au chapitre 8. La seule solution pour la culpabilité du péché, croyez-le ou pas, c'est le sang de Jésus-Christ. La seule solution pour combattre les convoitises de la chair, c'est l'Esprit Saint de Dieu qui nous donne une puissance surnaturelle pour faire mourir ces péchés et pour nous faire vivre une vie saine. Notez Romains, chapitre 8, verset 13, et Galates, Galatiens, chapitre 5, verset 16 à 21. La sainte parole de Dieu affirme aux croyants, « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Galates, chapitre 5, verset 16, déjà mentionné. C'est donc aux chrétiens qu'incombe la responsabilité de marcher selon l'esprit et les résultats seront garantis. Chers amis, le Dieu de l'éternité, il nous a créés avec toute sa sagesse. Il nous comprend, il nous connaît. Et il a pourvu un salut parfait par son Fils Jésus-Christ. Ce salut ne comporte pas seulement la délivrance de la punition due au péché et l'enfer, mais aussi la délivrance de la puissance du péché, soit tout simplement une vie totalement transformée. Les Saintes Écritures sont toutes suffisantes pas seulement pour le salut, mais pour la vie chrétienne. Toute l'Écriture sainte est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée, chapitre 3. Versets 15 à 17. Oui, chers amis, sa divinité ou sa divine puissance, elle nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 3. En lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Colossiens chapitre 2, verset 3. La psychologie séculière ou chrétienne enseigne généralement trois points principaux concernant l'estime de soi. Premièrement, la psychologie dit que notre niveau d'estime de nous-mêmes va déterminer notre conduite. Or, la Sainte Bible enseigne que l'estime que nous avons du Seigneur Jésus, en le contemplant lui et non pas nous-mêmes, transformera notre conduite, selon 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. La psychologie dit qu'une estime de soi insuffisante, c'est la cause de la plupart des problèmes de comportement. Or, la Sainte Bible enseigne que l'orgueil de la vie est le principal facteur qui contribue au système impie qui gouverne notre planète. Premier épître de Saint Jean, chapitre 2, verset 16. La psychologie dit que pratiquement tout le monde souffre d'absence ou d'insuffisance d'estime de lui-même. Or, la Sainte Bible dit « Jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et il en prend soin. » Éphésiens, chapitre 5, verset 29. Et que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Philippiens chapitre 2, verset 3. Satan, il n'a pas péché par un manque d'estime de sa personne, mais il a plutôt péché par l'opposé, c'est-à-dire par l'orgueil. Notez 1 Timothée, chapitre 3, verset 6. Il en est exactement de même des enfants du diable. Le Seigneur Jésus a dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Saint Luc, chapitre 9, verset 23. Chers croyants, toi qui écoutes maintenant, qui écoutes ce CD, pour être utile et pour plaire à Dieu, la question n'est donc pas d'avoir assez d'estime de toi-même, mais plutôt de renoncer à toi-même et d'apprécier davantage la personne du Seigneur Jésus-Christ. Considérez donc certains hommes de Dieu et ce qu'ils ont dit. Par exemple, Abraham a dit, « J'ai osé parler au Seigneur, moi qui suis qu'une poussière et de la cendre, selon la version Darby. » Jacob a dit, je suis trop petit pour toutes les grâces dont tu as usé envers ton serviteur. Jean-Baptiste a dit, il faut que lui, Jésus-Christ, croisse et que moi, je diminue. L'apôtre Pierre a dit, ô Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » L'apôtre Paul a dit, et on terminera par ça, l'apôtre Paul a dit, « Je suis le moindre de tous les saints. » Nous ne mettons point notre confiance en la chair afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Mülheimer Evangelium. Amen. Chers amis, je voudrais, on a encore un tout petit peu de temps, de vous transmettre tout simplement quelque chose que l'Esprit Saint m'a donné pour vous encourager, mais aussi pour votre enseignement personnel. Écoutez bien. Jésus vient nous aider, nous t'en supplions. Jésus-Christ sera toujours là. Il sera toujours là pour vous aider à passer des ténèbres à la lumière, de l'impuissance à la force triomphante, de la perdition au salut, du danger à la sécurité, de la disette à l'abondance, de l'indifférence à l'amour et du ressentiment au pardon véritable. Ne vous rassurez jamais sur votre état en vous comparant aux autres. Ayez toujours présente à l'esprit la grande parole de Jésus-Christ qui dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Saint Matthieu, chapitre 5, verset 48. Cela est rien de moins. Rien de moins ne devrait et ne doit vous satisfaire. Prenez l'habitude d'examiner votre vie à sa lumière, qu'il s'agisse de sa qualité foncière ou de vos rapports avec ceux qui vous sont chers, tels que votre famille, vos amis, vos connaissances, ou encore de votre pays ou de votre travail. Demandez-vous si, dans le même entourage, les mêmes circonstances ou la même situation, Jésus aurait vraiment agi comme vous. Voyez comment remédier le plus sûrement à telle défaillance habituelle et comment éviter tel péché, telle erreur ou telle omission. Oui, faites cet examen au moins une fois par semaine, s'il vous plaît. Je termine ici en vous demandant simplement de prier vous-même. Oui, vous pouvez faire vous-même une petite prière en disant « Dieu Tout-Puissant, qui est toujours plus prompt à nous exaucer que nous le sommes à te prier et qui nous donne plus que nous ne méritons et que nous ne demandons, répands abondamment tes grâces sur nous et daigne nous mettre au nombre de tes enfants. Ô Dieu, puisque sans ton secours, nous ne saurions t'être agréables. Eh bien, fais-nous la grâce que ton Saint-Esprit nous dirige et nous conduise dans toutes nos voies par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Et chers amis, vous savez que Dieu vous aime. Et de ce fait, il est mon devoir de vous dire que je vous aime également de tout mon cœur. Aussi maintenant, vous qui venez de m'écouter, je vous enlace et je vous embrasse tous avec tout mon amour et je vous dis, soyez bénis. À demain matin pour une nouvelle série d'études que j'ai déjà commencé, mais je la poursuivrai demain. À bientôt, mes très chers amis. Soyez donc, comme je l'ai dit, bénis. Parce que, souvenez-vous, chacun d'entre vous qui, un jour, s'est repenti de ses péchés, a reconnu qu'au moi autrefois, que j'étais perdu et qui accepte la main tendue de Jésus-Christ maintenant, eh bien vous êtes son enfant. Son enfant pour l'éternité. Vous qui êtes la moitié plus jeune que moi, je vous demande, s'il vous plaît, essayez d'atteindre d'autres autour de vous pour les amener simplement à Jésus-Christ. Et savez-vous, c'est pas moi qui le dis, et vous le trouverez dans le Saint-Livre, The Old Fashioned Book, que pour une seule âme que vous amenez à Jésus-Christ, des milliers de péchés vous seront pardonnés et tout le ciel s'en réjouira. Croyez-le, j'ai pris cela dans une de mes versions allemandes, puisque je suis de langue allemande, mais vous le trouverez aussi dans votre version française. Certainement. Soyez bénis. À bientôt. Que Dieu vous bénisse.